Bonjour et bienvenue dans Espace de travail pour une émission que je présente aujourd'hui avec ma consœur Géraldine Delacroix.
Bonjour.
Alors aujourd'hui encore, comme souvent dans Espace de travail, on va parler de plateformes numériques, d'Internet et de la façon dont le net bouleverse le travail, complexifie le travail, transforme la façon dont on travaille. Aujourd'hui, en revanche, on ne va pas parler de Uber ou de Deliveroo, qu'on commence à bien connaître, mais d'une plateforme qui s'appelle Etsy, qui est fréquentée par des créateurs, mais surtout par des créatrices d'objets, de meubles, de bijoux, et qui est une plateforme de vente. Alors, pour discuter de la façon dont ces objets sont vendus, et dont ces créatrices travaillent, et dont la plateforme met tout ça en musique, on accueille pour commencer la sociologue Anne Jourdain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Dauphine, à Paris Dauphine. Et vous avez parlé de la plateforme Etsy, en particulier dans un petit livre récent qui s'appelle Les nouveaux travailleurs des applis, publié en France, et aussi un livre en anglais costaud que vous avez coordonné avec Sidonie Nolin, qui est votre collègue.
Sidonie
Nolin, excusez-moi, qui est votre collègue et avec qui vous travaillez très fréquemment. On va voir un petit peu comment vous évaluez les transformations et les bouleversements que des plateformes comme ça peuvent amener. Et je laisse Géraldine présenter notre autre invitée.
Alors, Sophie Ronzel, vous tenez sur la plateforme Etsy une boutique qui s'intitule Crafty. Vous vendez vos créations et divers objets liés à la papeterie. Et puis, vous avez aussi monté la Team Petit Paris, qui regroupe des créateurs et des créatrices, j'imagine, surtout. Vous pouvez nous expliquer clairement ce que c'est Etsy pour les gens qui ne connaissent pas?
Alors, Etsy, c'est une plateforme, et une plateforme, c'est effectivement, si on ne connaît pas, c'est un terme qui peut être un peu abstrait. Etsy, c'est comme un intermédiaire qui, quand on crée des objets faits à la main, vous permet en fait de facilement les mettre en ligne sans avoir de compétences techniques.
Donc, vous mettez en vente sur Etsy?
Voilà, les objets que je crée. Etsy, donc, du coup, me permet d'avoir ma boutique au sein des autres vendeurs Etsy. Et me permet aussi en fait de toucher une clientèle qu'Etsy va chercher.
Qui est mondiale?
Qui est mondiale, oui.
Et du coup, au niveau des ventes, c'est mondial aussi? Comment ça marche?
Alors, c'est mondial. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais encore à peu près 50% France, 50% US. Et un petit pourcentage reste du monde. Donc, j'ai vendu à Singapour, en Australie, en Norvège, Copenhague, enfin vraiment de façon plus ponctuelle, mais c'est assez rigolo de vendre.
Ça fait longtemps que vous êtes sur Etsy déjà?
Depuis 2013.
Et quand est-ce que vous avez développé cette petite team, enfin cette grosse team? Vous pouvez nous raconter comment petit à petit vous avez pris place sur la plateforme, pris vos marques dans cet univers?
Ben, en fait, j'étais toute seule chez moi, en fait, pour créer, pour vendre. Et la solitude se fait rapidement peser, on pèse rapidement, et puis en fait on se rend compte qu'on a besoin d'aide aussi. Et du coup, Etsy en fait a un concept qu'ils appellent les teams, et en fait ils poussent les créateurs à se rassembler pour justement s'entraider. Et donc j'ai créé en 2016 la Team Petit Paris. Donc j'ai lancé sur le site Etsy le fait que j'ouvrais une réunion dans un café à Paris, et 30 personnes se sont venues. Et 30 personnes qui étaient comme moi à la recherche de rompre cette solitude. Et donc, ensemble, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait construire ensemble.
C'est un phénomène fréquent, que ce soit des femmes dans des moments, je crois que c'est ce que vous expliquez dans un autre article qui est caché là-dessous, ou dans le grand livre en anglais, des moments de rupture ou de solitude dans un parcours professionnel où le travail s'arrête, où il y a un congé maternité, un congé maladie. Et c'est à ce moment-là que ça peut s'enclencher. De passer d'une fabrication, c'était des loisirs pour vous avant, je sais pas, avant Etsy?
Non, ça a tout de suite été la volonté d'être pro. Oui, avant, en fait, j'étais responsable marketing, mais j'ai jamais réussi à rentrer dans les boîtes dans lesquelles il fallait que je me mette pour que ça se passe bien. Donc, c'est vrai que c'est un chemin qui se faisait dans ma tête depuis assez longtemps. Et quand j'ai eu, c'est très classique sur Etsy, quand j'ai eu
C'est
mon
ça,
premier
voilà.
enfant, je me suis dit, non, il faut franchir le cap. Pour montrer, je dois réussir ma vie pour montrer cet exemple à mes enfants, tout simplement.
Et donc Anne Jourdain, c'est vrai, c'est ce que raconte Sophie Ronzel, c'est quelque chose que vous avez croisé beaucoup, ou qui avez interviewé et interrogé beaucoup de créatrices de cette plateforme ?
Alors oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on rencontre auprès de beaucoup de créateurs et de créatrices, alors surtout des créatrices, vous l'avez dit, hein, c'est une plateforme qui est très féminine, Etsy. 88% des vendeurs et des vendeuses d'Etsy sont des femmes, donc à l'inverse de Uber et Deliveroo que vous avez présenté précédemment, on est vraiment sur une plateforme très féminine. Et effectivement, lorsque l'on va interroger ces vendeuses, on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles ont développé cette activité de vente sur la plateforme à l'occasion d'une période de latence, comme on l'appelle avec ma collègue Sidonie Nolin, qui, elle, travaillait sur les blogueuses culinaires pour lesquelles il y a des phénomènes similaires qui sont observables. Une période de latence qui est très couramment un congé de maternité ou plus souvent un congé un peu plus étendu, un congé parental. Ça peut également être un congé maladie ou également des formes d'expatriation, de femmes d'expatriés qui vont...
Déménagement,
qui vont se retrouver à un moment donné, effectivement, comme dans votre cas, isolés socialement, avec potentiellement des enfants en bas âge dans le cas de congés parentaux, et qui vont développer à l'occasion de cet isolement social une activité de création qu'elles vont commencer à mettre en ligne sur la plateforme Etsy, qui est dans le domaine de la création et des loisirs créatifs très connus aujourd'hui, dans le domaine du do-it-yourself.
Voilà, c'est une plateforme, on n'a pas précisé, c'est une plateforme américaine. Alors, c'est en 2005, si je ne m'abuse.
Oui. C'est une plateforme effectivement qui a été créée en 2005 aux États-Unis et Etsy est très connue aux États-Unis. C'est une plateforme qui s'est développée dans sa version française en 2012 en France. Et en France, c'est vrai que la plateforme est moins connue. Alors, il y a certains milieux dans lesquels on connaît Etsy, d'autres dans lesquels on la connaît pas du tout. Et puis, c'est une plateforme qui s'est développée dans différents pays dans le monde, avec à chaque fois une petite équipe de salariés, alors qui est réduite aujourd'hui en France, pour justement diffuser la plateforme dans sa version nationale.
Et combien de créateurs en France, utilisent la plateforme en tant que
dans le monde aujourd'hui, dans le monde, on est à un peu plus de 2 millions de boutiques actives en ligne. En France, en ce moment, on est à 19 000 boutiques en ligne actives vendant des produits, effectivement. Okay. Donc ça représente effectivement un certain nombre d'individus qui ont des profils et des usages différenciés de la plateforme en fonction de leur profil.
Justement, vous, par exemple, est-ce que vous arrivez à en vivre ? Est-ce que c'est commun de faire une sorte de plein temps avec Etsy ? Ou est-ce que c'est plutôt des activités complémentaires pour vous ?
Moi, je dirais que par rapport à mon expérience et par rapport finalement aux gens que je côtoie, parce que du coup, aujourd'hui, en fait, grâce à Etsy, je suis aussi en relation avec pas mal de capitaines de team, que ce soit en France, en Europe, même dans le monde. Donc, c'est hyper passionnant de discuter et de voir finalement qu'on a globalement beaucoup de points communs dans toutes les teams. Ouais. Et c'est vrai que je vois qu'il y a quand même, en tout cas nous concernant, il y a les gens qui sont à temps plein. Mais je pense que quand même c'est une minorité. Et puis il y a les gens qui ont un travail à côté, soit temps partiel, soit temps plein. Il y en a qui sont soit des jobs qui sont vraiment dans un milieu périphérique, dans un domaine périphérique à leur création, ou des gens qui font vraiment complètement
autre chose. Ouais.
C'est ce que vous voyez aussi
Alors, oui, effectivement. Alors, moi, ce qui m'a intéressé à travers cette plateforme, enfin, très vite, à travers les entretiens que j'ai faits, justement, j'ai vu une diversité des profils entre ceux qui s'inscrivent sur la plateforme avec une envie d'en vivre et donc d'exercer professionnellement une activité de création, et celles et ceux qui font ça à côté d'un travail souvent salarié. Et donc, j'ai essayé de, non pas forcément pour l'instant de quantifier le phénomène, mais j'ai essayé de repérer ces différents types de profils. C'est vrai qu'il y a en majorité des individus qui sont plutôt des amateurs sur la plateforme, qui ont donc un travail souvent salarié à côté et qui vont ouvrir une boutique, qui vont faire ça. Donc ça va être le soir, ça va être pendant les week-ends, pour ce qui est de l'activité de création, qu'il faut distinguer de l'activité sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, qui est toute l'activité digitale, le travail digital que demande en fait l'ouverture d'une boutique sur Etsy, Parce qu'effectivement, si ça demande peu de compétences techniques, pour pouvoir vendre et essayer de bien vendre sur Etsy, il faut s'investir de manière très intensive dans un travail digital pour être visible sur la plateforme, mais aussi sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, Facebook, éventuellement Twitter. Donc voilà, il y a ces amateurs-là qui font ça, et ce travail digital, ça peut être des temps interstitiels, de bureau, enfin de pauses de bureau par exemple. Et puis il y a une minorité de femmes et d'hommes qui s'inscrivent dans une perspective qui est plutôt une perspective donc de professionnalisation sur Etsy, avec l'optique donc d'en vivre, et qui vont être de fait très investis à la fois dans l'activité de production et dans l'activité de travail digital dont je parlais précédemment. Et ce qui est intéressant donc, c'est aussi de repérer les revenus que l'on peut générer grâce à cette plateforme. C'était peut-être une question.
Non, mais aussi, absolument, parce qu'effectivement, il y a un chiffre frappant dans votre article, qui est que 50% des vendeurs et surtout des vendeuses gagnent moins de 10 euros par mois.
Tout à fait.
Qu'on peut compléter par le fait que le chiffre d'affaires mensuel des femmes sur Etsy est de 84 euros par mois, donc évidemment très très faible, et celui des hommes est presque deux fois supérieur à 150 euros.
Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Alors déjà, d'où proviennent ces chiffres du point de vue de la méthodologie? Ce que j'ai fait, c'est ce qu'on peut faire sur les plateformes numériques, c'est une méthode un peu à la mode en sciences sociales, ça s'appelle de l'aspiration de données du web scrapping. Donc on a essayé de récupérer en partie les données de la plateforme, ça vous intéresse, pour pouvoir les analyser statistiquement. Et notamment des données qui relèvent, alors on n'a bien entendu pas recueilli des chiffres d'affaires en tant que tels, on a recueilli des prix moyens, des prix minimums, des prix maximum sur chacune des boutiques, bien entendu de manière totalement anonymisée, il s'agit certainement pas de dire qui gagne combien sur chacune des boutiques. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est de voir quel va être le chiffre d'affaires moyen. Donc on a reconstitué une sorte de chiffre d'affaires approximatif, et c'est vrai que la médiane du chiffre d'affaires se situe à 10 euros, ce qui signifie que 50% des vendeurs et des vendeuses actives sur Etsy gagnent moins de 10 euros par mois. Donc on est sur des chiffres très faibles, une très petite activité. Alors bien entendu, les choses ne se posent pas de la même manière quand on est amateur ou quand on est professionnel, mais néanmoins, même pour les professionnels, on est sur des revenus qui sont relativement faibles, ce qui oblige beaucoup de professionnels à trouver aussi, soit à trouver une autre activité, un job alimentaire à côté, ou alors à trouver d'autres canaux de commercialisation de leurs produits dans le cadre de boutiques physiques ou d'expositions diverses et variées, ou encore, ce qui est assez fréquent, comme il s'agit surtout de femmes, à s'appuyer sur les revenus du conjoint, cadre, salarié, qui permettent à la famille de vivre et de ne pas générer des revenus qui soient supérieurs nécessairement au SMIC. Et pour finir sur cette question des revenus, quand on compare, quand on essaye de déterminer le nombre de vendeurs et de vendeuses qui parviennent à réaliser un SMIC, au moins un SMIC brut mensuel, qui est une sorte de plancher par défaut, et bien on arrive à
1 euros par mois brut.
Voilà. on arrive à 1% des vendeurs et des vendeuses. Donc c'est vrai que il y a cette promesse qui est faite par la plateforme et relayée beaucoup par les médias, selon laquelle on va pouvoir vivre de son métier. Un des slogans d'Etsy, c'est « Faites de votre passion un métier ». Pour pouvoir y arriver, certains et certaines y arrivent, mais c'est quand même pas la majorité. Et pour finir sur cet écart que vous indiquiez entre les femmes et les hommes, effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Enfin, les inégalités de revenus entre hommes et femmes, c'est quelque chose d'assez classique en sociologie, mais je ne m'attendais pas à ce que sur une plateforme aussi féminine, on retrouve un écart tel entre hommes et femmes, quasiment effectivement les hommes qui font un chiffre d'affaires quasiment deux fois supérieur à celui des femmes. Alors après, il s'agit de l'expliquer. L'enquête que je mène n'est pas encore terminée. Justement, d'accord, une de mes ambitions cette année, en tout cas, ça va être d'aller voir des hommes qui vendent sur Etsy pour voir dans quelle manière ils se différencient, notamment dans leur trajectoire, des femmes. Alors j'en ai interrogé quand même trois hommes. Et sur voilà, donc sur la base de très peu de choses en réalité, il semblerait, mais ce sont que des hypothèses pour l'instant, que les hommes s'inscrivent beaucoup moins sur Etsy pour marchandiser un hobby. Ils sont beaucoup plus dans, les hommes qui vendent sur Etsy sont beaucoup plus dans une perspective de professionnalisation. Et parce qu'ils sont dans cette perspective-là, ils vont être amenés à développer des objets qui se vendent peut-être mieux. Que les femmes. Donc voilà, ça c'est des petits objets qui se vendent assez facilement. Bon, ça c'est une hypothèse qui reste à tester.
Je pense peut-être plus des objets qui... Ils vont plutôt se réfléchir à des objets qui vont bien se vendre qu'à des objets qui vont plus leur plaire.
Exactement.
Ou plus les passionner à créer, en fait, je pense. Ouais.
Et du coup, vous êtes sorti sorti aussi dans le monde physique, en fait, avec votre Team Paris. Il y a des événements dans le monde physique, voilà, des boutiques ou des corners. J'ai vu un truc au Galeries Lafayette pour Noël.
Parce que du coup...
Vous cherchez ailleurs.
Oui, parce que clairement, je m'inscris complètement dans ce modèle-là. Et même si aujourd'hui, il y a des outils qui sont externes à Etsy qui permettent justement de nous aider dans ce travail, justement pour aider à mieux vendre sur Etsy. Après, ils nous donnent un certain nombre de statistiques. Et c'est vrai que moi, je vois que, a priori, au niveau français, je me place plutôt bien. Mais quand je compare par rapport à mes revenus, je me dis, oui, effectivement, du coup, l'extrême majorité des vendeurs sur Etsy touche effectivement très peu de revenus. Et du coup, finalement, très rapidement, la solution s'est imposée à nous. Nous, l'objectif, c'était de mutualiser nos efforts et nos finances pour mieux vendre. Donc, c'est à la fois se former, mais c'est aussi, toucher d'autres clientèles et d'autres façons de vendre. Et donc, on a aujourd'hui, on monte 2 à 4 marchés de créateurs par an.
Par an, ouais.
D'accord.
Voilà.
Et donc, vous fabriquez, vous commercialisez des tampons, encreurs.
Des cartes,
etc. Et vous, du coup, vous vendez vos produits avec quels autres types de créateurs dans ces boutiques éphémères, ces marchés?
Alors, des personnes qui font des bijoux, de l'illustration. Des produits du textile pour les bébés. Ça peut être des savons, ça peut être des objets en béton.
Ah oui, donc c'est
la céramique, c'est très large.
D'accord. Et vous sauriez dire, en termes de chiffre d'affaires ou de nombre d'objets vendus, les ventes dans le monde physique sont plus fortes que celles que vous faites sur Etsy, ou c'est équivalent, c'est un complément, ça dépend des périodes?
Si je regarde globalement, je pense que on vend plus quand on fait des pop-up, des marchés de créateurs, que sur la plateforme en elle-même. Mais on ne touche pas du tout la même clientèle.
C'est
complémentaire. Ouais. À la fois sur Etsy, c'est vraiment une clientèle française, mais aussi beaucoup mondiale, vraiment des clients qu'on n'arriverait pas à toucher autrement. Et après, quand on fait un marché de créateurs qu'il est à Paris, clairement, c'est une clientèle de quartier ou des touristes qui passent.
Et vous savez comment ça marche sur Etsy, la mise en valeur de vos produits pour être sur la page d'accueil ou pour être bien référencé dans le site? Comment on fait pour vous trouver? Qu'est-ce qui vous conseille? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ils vous disent de faire pour valoriser vos productions?
Alors déjà, c'est quelque chose qui change très régulièrement. Donc, faut bien sûr être à la page. Donc, Etsy donne un certain nombre d'informations. Mais après, il y a quand même... ils ne donnent pas toutes les informations, évidemment. Ouais. Donc après, il y a d'autres sites, en fait, qui permettent de donner certaines informations... qui ne vont pas vous dire « il faut faire comme ci, comme ça », mais ils vont vous donner des informations par rapport à la façon dont vous avez rempli votre boutique pour vous aider à améliorer. Et après, moi, je lis beaucoup les groupes Facebook américains, des podcasts.
Des astuces
Il faut tout le temps chercher, parce que ça change souvent, et tout le temps chercher à s'améliorer. Et en fait, la boutique doit aussi hyper souvent être actualisée.
D'accord. Ah oui, il faut mettre toujours du nouveau contenu.
Des nouveaux produits, ou modifier des fiches, c'est très important.
Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'a décrit Anne Jourdain, à savoir qu'il y a finalement dans votre travail pour cette plateforme et autour, il y a la création des objets et leur vente, mais il y a toute une activité de... Alors, c'est ce que vous dites dans l'article, de mise en scène de soi, de mise en scène de son travail, enfin, un travail numérique énorme tout autour. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette description? Est-ce que vous y attendiez?
Je m'y attendais, mais pas à ce point-là, je pense. Mais c'est vrai que... Bah, je dirais que peut-être le travail de création, c'est peut-être 20-30% de mon temps.
D'accord,
parce qu'il y a tout le travail pour se mettre en avant, mais il y a aussi, bah, je fais ma comptabilité, je fais enfin, tout, acheter mes fournitures. C'est vraiment un tous les métiers de l'entreprise que je fais toute seule, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on fait les marchés créateurs, on a souvent des gens qui débutent ou alors qui aimeraient le faire et qui viennent nous voir pour avoir des conseils ou pour entrer dans la team. Et moi, c'est vrai que j'essaye justement que les personnes comprennent et de démystifier ça en leur expliquant justement qu'il va falloir qu'ils s'attendent à ça. Et souvent, les gens tombent des nues quand même. Hein.
Ouais, il ne s'agit pas toujours de fabriquer. Ouais.
Voilà, il ne s'agit pas toujours de... On n'est pas dans son atelier à écouter de la musique et à fabriquer ses créations. C'est une démarche que je préfère faire pour prévenir les gens avant qu'ils s'embarquent dans quelque chose.
Oui, donc ça ne se vend pas par magie de l'Internet. Il faut y aller.
Voilà. Je pense que Etsy serait plus connu si
c'était
le cas.
C'est ça.
Mais Anne Jourdain, du coup, c'est vrai que, comment dire, le paysage que ça décrit est complexe ou compliqué. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. C'est un gros travail engagé et on n'est pas forcément sur le métier passion pur. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans sa création. Donc la question, c'est pourquoi, selon les gens que vous avez rencontrés, pourquoi ils le font, pourquoi ils travaillent, pourquoi on travaille via Etsy ?
Alors, j'ai plusieurs réponses à apporter. Déjà, par rapport à, effectivement, à ce que vous disiez sur la démystification, moi, j'ai rencontré beaucoup de créateurs et de créatrices qui ne s'attendaient pas, effectivement, à l'importance de ce travail digital, de présentation et autres, et qui ont été vraiment déçus, en fait, par la plateforme qui annonce, qu'il y a une sorte de discours selon laquelle il suffit de mettre ses produits sur la plateforme et puis la plateforme va s'occuper de les vendre en quelque sorte. Donc il y a tout un tas de créateurs et de créatrices qui sont pris par cette promesse-là et qui croient et donc s'aperçoivent après coup que il faut aussi beaucoup s'investir en réalité dans le travail digital. Effectivement, il y a le travail de mise en scène de ces produits, etc., sur différents réseaux sociaux. Il y a aussi ce que vous évoquiez, la question de l'algorithme. Donc, effectivement, il faut se renseigner constamment sur la manière dont fonctionne l'algorithme pour savoir comment on tague ces produits, quels mots-clés on met pour chacun de ces produits, comment on alimente effectivement constamment sa boutique pour être mieux référencé. Alors, certains achètent des publicités, pour remonter dans l'algorithme. Ça, c'est aussi une possibilité, mais qui est coûteuse financièrement. Il y a tout un tas de... les vendeurs et les vendeuses les plus actifs essayent de décrypter cet algorithme pour être le mieux référencé possible, avec des grosses déceptions quand l'algorithme en vient à changer et qu'il se trouve plus du tout à la page où ils étaient précédemment. Et ce travail digital, on sent qu'il est d'autant plus important que justement ceux qui vendent très bien sur Etsy, ceux qui vendent le mieux sur Etsy, les 1% que j'évoquais tout à l'heure, un des autres résultats statistiques que mon enquête met en évidence, c'est que ces 1%-là, ils ont tendance, c'est pas la totalité d'entre eux, mais une bonne partie d'entre eux, la majorité d'entre eux, ne font pas eux-mêmes les objets qu'ils vendent. Ils externalisent la production. Effectivement, ils n'ont plus le temps, dans la mesure où ils sont pris par ce travail digital particulièrement intensif. Et c'est vrai qu'Etsy, depuis 2013, autorise en fait l'externalisation de la production. Alors, en fait, sur Etsy, il y a aussi une catégorie de vendeurs qu'on appelle vintage, qui consiste en fait à revendre, à faire de la revente de produits. Et c'est vrai que ces vendeurs et vendeuses-là s'en sortent mieux d'une certaine manière que ceux qui fabriquent leurs propres objets et qui sont effectivement obligés d'être d'acheter leurs matériaux, de fabriquer, etc., etc. Donc pour une plateforme qui met en évidence le fait main, qui valorise beaucoup le fait main, c'est vrai que avoir ce résultat selon lequel finalement ceux qui réussissent le plus sont ceux qui s'écartent peut-être un peu de l'éthique promue.
C'est étonnant. Mais vous étiez consciente de ça ? Vous savez qu'il y a des gens qui, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ne fabriquent pas leurs produits ?
À force de creuser. Moi, mon premier produit, c'était vraiment des tampons gravés à la main. C'est très agréable, mais c'est très chronophage. Et finalement, petit à petit, c'est vrai que mon choix, j'ai un petit peu pivoté finalement mon choix. Donc maintenant, c'est vrai qu'avant, je vendais des tampons qui étaient plus petits, mais qui finalement, mis bout à bout, me prenaient plus de temps à fabriquer. Alors maintenant, je préfère en proposer des plus grands, plus personnalisés, qui vont avoir qui vont rapporter plus d'argent, même s'ils sont plus longs à faire. Et aussi, faire proposer plus de papeterie, parce que la papeterie, finalement, une fois qu'on a fait le design une fois, on ne fait que le reproduire. Ouais. C'est un choix, en fait, de raison.
Et je reviens sur ma question précédente pour vous deux, hein, c'est pourquoi est-ce qu'on reste sur Etsy si c'est un travail difficile, c'est pas grave, c'est un travail difficile et qu'on ne gagne pas sa vie et qu'il y a d'autres choses qu'on en retire.
Moi, c'est une question effectivement que je me suis posée parce que quand j'ai regardé les revenus qu'on générait sur la plateforme, enfin, effectivement, si on génère 10 euros par mois, pourquoi on continue à faire ça? Alors, pourquoi les professionnels continuent à faire ça, même s'ils vendent un peu, bien sûr, les professionnels vendent un peu plus que les amateurs, hein, bien entendu. Mais pourquoi on continue à vendre en ligne plutôt que vendre hors ligne ou, voilà. Et puis, pour les amateurs, pourquoi on continue à vendre plutôt que juste, faire son activité de loisir, à côté, gratuitement, voilà. Et donc ça, on a des résultats qui ont été mis en évidence, enfin que j'ai mis en évidence avec Sidonie Nolin également sur les blogueuses culinaires. Et il y a tout un tas en fait de bénéfices non économiques à l'activité de vente sur Etsy. Alors il faut quand même dire que sur les bénéfices économiques, quand même les revenus qui sont générés, aussi faibles soient-ils, peuvent être sont parfois réutilisés pour les amateurs pour acheter du tissu, pour acheter du matériau pour en fait financer le loisir qui est relativement onéreux en tant que tel, ou pour certaines étudiantes ça va être aussi un moyen de une forme de complément de revenus à côté de leurs études par exemple. Donc il y a ça, mais les bénéfices non économiques sont extrêmement importants. Ça va être alors tout d'abord une forme de sociabilité. On commence aussi dans ces périodes de latence qu'on a évoquées, des formes d'isolement. Donc l'idée, ça va être de trouver des personnes qui font la même chose ou à peu près la même chose avec lesquelles on va pouvoir dialoguer pour aussi développer le loisir ou la passion la passion créative que l'on partage, qu'on va pouvoir partager via des forums, mais aussi lors de rencontres physiques comme les fameux marché de créateurs qui sont aussi des occasions de discussion entre les créatrices elles-mêmes et des occasions de sociabilité. Donc sociabilité, mais aussi une forme de reconnaissance sociale pour tout un tas de femmes notamment. Reconnaissance sociale grâce à la vitrine permise par l'affichage de cette boutique en ligne sur Internet. On va pouvoir s'y référer auprès de sa sphère amicale notamment. Alors c'est vrai pour les amateurs et pour les professionnels. Et pour les amateurs, éventuellement qui ont un travail salarié à côté, qui n'est pas forcément épanouissant. Avoir cette activité à côté de création, c'est aussi un moyen de trouver quelque chose d'épanouissant dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le travail que je mène, c'est à la fois d'étudier donc ces amateurs qui mettent en perspective ce travail à côté sur Etsy par rapport à leur travail salarié, et également voir comment il y a beaucoup sur Etsy de reconvertis en fait, celles qui vont passer à une phase de professionnalisation. Comment elles il y a une forme de rejet du travail salarié, du non épanouissant, en grande entreprise où on est pris dans une hiérarchie de N+1, de N+2, et à la fin de la journée on n'a rien produit. Et bien à l'inverse, travailler sur Etsy, c'est produire déjà donc des objets d'une part, mais aussi produire quelque chose sur le net qui va rester visible et laisser une trace sur le net. Et également quelque chose qui est très valorisé, c'est l'idée d'être d'une certaine manière entrepreneur. Alors, et pour les professionnels, mais aussi pour les amateurs. Je me souviens d'une enquêtée qui était travail salarié à côté, qui me disait moi sur Etsy, je joue à la marchande. Jouer à la marchande, c'est aussi quelque chose qui est valorisé. Jouer à l'entrepreneur dans la société contemporaine où la figure de l'entrepreneur est aujourd'hui très valorisée, c'est aussi il y a ce bénéfice-là en fait de l'activité sur Etsy.
Vous dites aussi que c'est des personnes qui ont souvent un niveau socio-culturel relativement élevé, qui ont fait des études, qui ont eu un travail peut-être inintéressant, mais pas complètement négligeable, et qui se mettent participer voilà à Etsy. Donc c'est pas donné à tout le monde, on a l'impression quoi.
Non, effectivement, c'est vrai que si a priori les compétences techniques voilà sont minimales, bon, il y a quand même tout un tas d'éléments à maîtriser, ne serait-ce pas enfin, et puis oui, après justement ce travail digital de présentation de soi nécessite parfois de parler anglais, en tout cas de savoir écrire, etc. Donc c'est pas finalement ça n'est pas donné à tout le monde, alors même qu'on pourrait imaginer que c'est une forme de démocratisation du travail. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on observe, donc ce sont surtout des femmes et surtout des classes moyennes supérieures, plutôt très diplômées, qui vont faire ça, donc soit à côté, soit en guise de reconversion. Donc effectivement, vous disiez, donc des études longues qui ont donné lieu à des emplois d'ingénieurs, de juristes, d'enseignants, etc. Mais ce sont souvent des emplois salariés qui sont des emplois dans lesquels notamment les femmes, c'est vrai aussi pour une partie des hommes, ils ne retrouvent pas en fait ce qu'ils ont appris dans leurs études. Finalement, ils se retrouvent à faire un travail d'exécutant sans production concrète, alors même que leurs études, justement plutôt élevées, les ont amenées à espérer faire un travail plus créatif en réalité. Donc c'est pour ça notamment qu'il y a ces phénomènes de reconversion professionnelle, notamment sur Etsy. Et dans le cas particulier des femmes, il faut aussi évoquer le plafond de verre qui est un vrai qui limite sérieusement les carrières des femmes au sein des grandes entreprises. Et je vais prendre l'exemple c'était une ingénieure en informatique qui a pris un congé parental de 3 ans à l'occasion de la naissance de son, je crois que c'était son 3e enfant. Et lorsqu'elle est revenue, parce qu'elle comptait revenir et donc effectivement revenir à son précédent emploi, on lui a bien fait comprendre que les perspectives d'évolution de carrière étaient, enfin que tous les postes étaient pris et qu'elle allait faire la documentation, parce que comme c'était une fille, les filles aiment la documentation, c'est bien compris. C'est bien connu. Et donc, elle ne s'est pas du tout retrouvée dans cet emploi. Et parallèlement, elle avait développé effectivement une activité de loisirs, de fabrication de textiles pour enfants. Et donc, elle a décidé d'en faire une activité professionnelle, finalement, ouais. Et de basculer. Donc, la bascule, elle est liée à la fois à une insatisfaction vis-à-vis du travail précédemment exercé, notamment un travail salarié, et l'attrait pour un travail indépendant et un travail de création.
Okay. Je trouve qu'on a l'impression, Sophie, que vous êtes bien avec Etsy, vous êtes bien dans cet univers, justement. Je trouve que c'est assez positif parce que, effectivement, on voit que, enfin, on lit, ça n'a pas l'air de rapporter grand-chose, c'est difficile, il y a plein de trucs à faire qui ne sont pas créatifs alors qu'on est plutôt venu pour ça. Mais finalement, je trouve que vous en parlez avec une certaine affection pour.
Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Etsy parce que c'est vrai que moi, avant Etsy, que ce soit à l'école ou que ce soit professionnellement, j'avais du mal à rentrer dans les cases. Et finalement, quand j'ai commencé à rencontrer des gens sur Etsy, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient, tout simplement. On s'est retrouvés. Et je me suis dit, je ne suis pas toute seule à avoir plein de préoccupations de ce genre. Et comme vous le dites, c'est difficile. Mais c'est un métier, en fait. Mmh. Donc après, on le fait ou on ne le fait pas. C'est pour ça, je pense que si, une fois qu'on sait effectivement de quoi il en ressort, soit c'est un métier qui vous correspond ou ça ne vous correspond pas. Mais si ça vous correspond, c'est très épanouissant.
Il y a beaucoup d'abandon, du coup. On sait mesurer ça, des gens qui sont là un mois, 2 mois, 6 mois, et puis après, la boutique s'étiole ou...
Moi, c'est une question que je suis en train de traiter justement à travers l'aspiration des données que j'ai faite il y a 2 ans, que j'aimerais refaire, que je suis en train de refaire pour justement vérifier comparer. Dans quelle mesure il y a pour comparer, pour voir dans quelle mesure il y a un turnover sur la plateforme. Et je fais l'hypothèse que le turnover, il est effectivement important. Alors d'autant plus que une des particularités d'Etsy, c'est que donc on crée une boutique, on affiche un ou plusieurs produits, et les produits ne sont affichés effectivement sur la plateforme que pendant 4 mois s'ils n'ont pas été vendus. D'accord. Donc il y a tout un tas de boutiques qui existent sur Etsy qui sont des boutiques inactives sur lesquelles il n'y a plus de produits.
Ils ont disparu tout seuls.
Ils disparaissent tout seuls, effectivement. Donc voilà, ces boutiques inactives-là...
Et vous pouvez les remettre après ou du coup, il faut prévoir de pas...
On rentre dans les frais.
Voilà.
En fait, il faut payer une somme qui est vraiment infime pour mettre en ligne. Et si l'article n'a pas été vendu au bout de 4 mois, l'article disparaît.
Et vous pouvez le remettre.
Et on peut le remettre, bien sûr. Remettre. Et ça peut se faire automatiquement aussi.
C'est 18 centimes, je crois.
C'est.
En euros, parce que c'est 20 dollars.
Parce que c'est 20 centimes de dollars.
C'est vraiment la plateforme américaine.
Sujet à la conversion.
Peut-être, évidemment, pour finir, parce qu'on arrive au terme de l'émission, on peut vous demander quelles sont les relations financières. La plateforme prend bêtement une commission sur les ventes. Donc là, vous avez répondu en partie, il faut payer pour mettre en ligne. Quand vous vendez, il y a une partie, j'imagine, qui va à la plateforme. Comment ça fonctionne?
Oui, alors il n'y a pas de commission fixe.
D'accord.
Alors j'ai besoin de mon petit papier, c'est un petit peu compliqué. Donc on paye environ 18 centimes à chaque fois qu'on met en ligne un produit. Après, donc il y a des frais de paiement de 4%. D'accord. Et une commission de 5% sur l'ensemble de la commande, c'est-à-dire frais de livraison inclus. On paye des frais sur les frais de livraison.
D'accord. Que les frais de livraison sont pris en charge par le client, par les vendeurs, ou ça dépend, ou chacun fait comme il veut ?
Par le client. Okay. Mais en tant que vendeur, on paye quand même des frais sur ces frais.
Okay.
Sachant que globalement, c'est quand même censé être juste le prix du timbre et du packaging, mais on paye quand même des frais dessus.
Ouais, le frais de livraison, il est généré automatiquement, je ne sais pas comment ça marche, ou c'est vous qui dites, alors ça pèse, c'est léger, ça va être pas cher.
Ça, c'est tout un sujet. Hein, parce qu'il y a le côté, je prends le prix, effectivement, le prix de mon packaging et le prix de mon timbre, et je m'arrête là. Mais après, il y a toute une histoire autour du Amazon, qui fait les frais de port gratuits, et du coup, Etsy qui pousse, la clientèle rechercherait aujourd'hui des frais de port gratuits, donc après, à chaque vendeur de jouer.
Et ça, vous avez le droit de dire les frais de port sont gratuits chez moi ?
Oui, évidemment, ils ne sont jamais gratuits. Mais...
Oui, alors vous montez le prix du produit.
Mais est-ce, dans quelle mesure on peut augmenter le prix du produit, etc. Donc ça, c'est une vraie réflexion.
Du coup, donc on est du coup dans un commerce un peu, enfin un truc un peu traditionnel où on fixe son prix en fonction de ce qu'on espère pouvoir vendre. Ouais.
Et pour finir sur la commission, plus la TVA sur les frais.
Qui est prise en charge par vous-même.
Qui est sur les frais. La TVA sur les frais.
Et qui n'est pas prise en charge par la plateforme.
Voilà.
Bon,
j'ai rien oublié.
Est-ce que ces conditions-là ont changé au fil du temps, vous qui êtes depuis longtemps une utilisatrice de la plateforme, une commerçante Ça a commencé à augmenter avec le temps ?
Oui, ça a augmenté il y a quelques mois. On était passé de 3,5 à 5%.
Ah oui, voilà. C'est beaucoup. Ça a eu bon.
Oui. Et pour vous parler des publicités, et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, tous les gros vendeurs payent de la publicité aussi.
D'accord. Oui, donc c'est une activité onéreuse.
Oui.
Ouais, et donc, les revenus d'Etsy, ils sont sur les commissions qu'ils prennent sur les ventes, et puis la publicité que vous êtes obligé de faire pour remonter dans... Dans la vitrine.
Tout à fait.
Okay. c'est gagne sur les deux tableaux. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Mais après, pour être très honnête, ils fournissent une documentation qui est monumentesque. Vraiment, il y a une quantité de documentation qui est vraiment conséquente si on se plonge dedans. Et puis, ils fournissent de l'aide quand même. Et puis, par exemple, les fameux marchés de créateurs, ils poussent les créateurs à faire ces marchés de créateurs.
À sortir de leur propre giron.
Voilà, ils poussent en fait à faire des événements qui s'appellent Etsy Made in France. Et donc même dans les petits villages, ils poussent les créateurs à se regrouper, même s'ils sont que 5-6 à faire des événements.
Vous avez un vrai dialogue avec eux, par exemple. Vous connaissez des gens de Etsy France qui peuvent vous aider à organiser un événement à Paris ou alors ça reste des échanges
Alors moi, je pense que du fait d'être à Paris et à terme, je connais un peu certaines personnes d'Etsy. Bon, ça a quand même pas mal bougé parce qu'il y a quand même eu une grosse phase de licenciement il y a combien de temps ? Un an ? Deux ans ?
Deux ans.
Deux ans maintenant. Mais après, c'est pas des gens qui vont nous conseiller pour nos boutiques, c'est pas des gens quand on a un problème. Non, il faut s'adresser aux US, envoyer un mail et là, peut-être avoir une réponse.
Ok.
Écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour l'instant. Merci beaucoup, Sophie Ronzel, Anne Jourdain. d'avoir participé à cette émission, d'avoir appris, enfin, fait explorer et découvrir le monde d'Etsy et des plateformes de vente en ligne. Merci beaucoup et
merci beaucoup.
Voilà, merci à vous d'avoir suivi Espace de Travail. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
Merci.
Au revoir.